La gêne. Coucou, c'est Collagène, l'émission de collage sonore. Aujourd'hui, on rencontre Guillaume Holl.
Ouais. Ah voilà, par exemple ça. Ça doit être le début. J'adore ça quand t'as un blanc. C'est assez drôle. Alors du coup là je sais pas ce que c'est. Ah ça c'est la... Sur cette première platine on a le... C'est un son de scie à ruban métallique. C'est ma colocataire qui fait de la ferraille quoi. Dans le garage elle a cette scie. Et en fait cette scie elle a un petit accro à un endroit. Il y a une dent qui accroche. Et c'est ça, c'est ce qu'on entend là, le truc qui accroche comme ça. Ça fait un peu bruit, comme un train qui arriverait dans une gare quoi. Et là, un peu au hasard, j'ai mis un autre son, mais ça par contre, celui-là, je l'avais un petit peu travaillé, je crois. L'avion, c'est pas moi. Ouais, je sais pas, j'ai dû faire une rythmique comme ça. C'est un carton coulissant en fait qui part du centre de. Bah, du tournevis, du centre du plateau. Et que je peux baisser ou enfin faire allonger ou raccourcir à ma guise, et ça arrive du coup, ça crée une boucle par exemple. En fait, c'est ça. Plus tu aimes le silence, si tu prends énormément de matière et que c'est ton but, c'est de faire du silence, tu vas forcément réussir à construire un truc. Mais ouais, c'est un truc que j'ai appris. Je pense que c'est un des trucs les plus importants que j'ai appris dans cette pratique-là, c'est le silence.
Bon, j'en profite pour prendre un peu les oiseaux.
Là-bas, il y a pas mal de... On peut parler oiseaux, hein.
Ouais, ça me dirait joli.
Ouais, je m'intéresse pas mal.
Ouais.
Je suis un peu à fond, là. Tiens, il vient s'envoler. Il fait des tours. Tiens, il va revenir, là. C'est un petit oiseau un peu jaune-vert. Tiens, je pense qu'il vient de passer. Attends. Bon là, on voit la mésange là-haut.
Elle est tout petit là. J'ai vu de passer un tout petit oiseau.
Donc ça, c'est la mésange.
Ça, c'est une mésange.
Ouais. Bah, le petit oiseau, c'est peut-être lui. Et il est assez... Si tu te poses un peu, il tourne par là. Il doit avoir un nid, je sais pas. Et l'autre fois, j'ai voulu l'observer. En fait, il est venu sur la gouttière me voir. Il faisait des tours sur lui-même pour que je puisse bien vérifier que c'était le bon. Pour l'identifier.
C'est ici que tu t'es commencé à observer les oiseaux ?
Ouais, parce qu'en fait, j'ai mon Velux qui donne sur. Donc, je peux assez bien me planquer. Donc, il donne sur tous les arbres. Et puis, j'ai mis une petite mangeoire. Du coup, en fait, ça les attire. Et je peux aussi les regarder à la jumelle. Et puis voilà, à force. Mais j'ai commencé en fait à m'intéresser aux oiseaux sur les balades. En fait, il y a un chemin côtier juste en bas parce qu'on est sur le fond de la rade, mais du coup, il y a une espèce de grève en bas. Et il y a un chemin avec. D'ailleurs, pour sensibiliser les gens, il y a des panneaux où tu peux voir, tu peux identifier les oiseaux, donc beaucoup de limicoles, donc les oiseaux marins, on va dire. Et certains d'ailleurs qui sont. Enfin, même pour la plupart, ils sont migrateurs. Et du coup, j'ai commencé à. Ça a été un peu un jeu de les reconnaître. Puis en fait, ça m'a un peu lancé dans le truc. Et là, le chemin, il le ferme pour que les nichoirs soient un peu protégés. Enfin, parce qu'à chaque fois que quelqu'un passe, tout le monde s'envole et ça leur fait perdre vachement d'énergie pour pouvoir repartir. Voilà, celui-là, il s'appelle Drone 5. En fait, c'est le cinquième disque que j'ai pressé, sur lequel il y a plutôt des nappes. On va dire que les premiers disques que j'ai enregistrés, j'ai fait plein de sons, plein de bruitages, toujours les mêmes. Je ne suis pas trop cassé la tête. Et je me suis dit après, ah, c'est pas mal d'avoir des disques un peu comme sur les disques de bruitage, avoir quand tu as des séries, les animaux, les bruits de la nature ou les bruits de la plage. Du coup là je me fais des disques spéciaux avec des longues nappes, ce qui me permet d'avoir des. Ça permet vraiment ces genres de textures quoi. Et sur celui-là il y a marqué 5 nappes synthé. Et en gros je pourrais m'amuser à faire une gamme si je voulais. Et à la fin, il y a cloche au vieux marché. Donc c'est un son un peu filtré d'ailleurs. Un son de cloche que j'ai cherché un peu l'harmonique des cloches que j'entendais en réalité. Mais là, évidemment, on les a beaucoup moins. Parce que le matériel est un peu cheap.
Ça serait cool aussi qu'on écoute du son, enfin des choses que tu fais, bien sûr, mais des choses qui t'ont inspiré.
Ah ouais, carrément. Bah oui, bah là, on pourra se mettre. Moi, j'ai rebranché un petit peu mon matos vite fait.
Cool.
Il était un peu en stand-by.
Ouais.
Je pourrais passer des plages de ce que j'ai de mes vinyles ou même faire un petit mix. Et puis ouais, on peut écouter des disques aussi.
Ou même des références, tu vois, que
Ouais, carrément.
Que tu m'en parles et après j'irai le chercher sur Soulseek ou quoi.
Ouais, carrément.
Sauf s'il y a des choses qui sont introuvables.
Ouais, je pense pas à part des trucs des années. Je sais pas, quand j'avais la vingtaine, il y avait un. Même avant, enfin, il y en a toujours un peu organisé des trucs, mais on organisait un festival, c'était un peu par nous, pour nous, quoi. Enfin,
ouais.
Tu sais, c'était un peu ça, c'était un peu l'idée de faire jouer la scène locale pour que les gens qui habitent là puissent venir voir des concerts. Et puis, autre que les fêtes de village, enfin, c'était un peu sortir un peu de ça. Mais surtout, c'était faire avec ce qu'on a, quoi. Il y avait un peu une charte comme ça. Puis à un moment, c'est quand même ouvert parce que tu te retrouves un peu avec tout le temps les mêmes groupes, ou tout le temps les mêmes gens qui jouent dans des nouveaux trucs. Et puis on a un peu découvert avec Toulouse le réseau des concerts. Et puis, mais on a été bien entouré aussi parce qu'on a pas mal de gens qui avaient cette culture des années. Enfin, pas mal d'anciens qui avaient la culture des années 70 de manière assez similaire de ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Je crois que je suis allé en 2003 à Toulouse, du coup à 20. Attends. Quel âge j'avais ? À 19 ans, je suis parti à Toulouse. Je me suis installé. Après, j'ai eu mon bac. Et puis après, j'ai bossé dans un théâtre. Avec mon bac pro électronicien.
Oui, d'accord.
Ouais.
Ça coïncide avec la découverte que tu fais des musiques impro et tout ?
Ouais. En fait, c'est ça, 2000. Attends. 2003, j'arrive. Déjà, je commence à découvrir le milieu des libertaires, des squats et tout ça. Déjà, j'hallucine un peu. Parce que j'arrive de Villefranche et je m'étais dit, je vais à Toulouse pour aller au cinéma. Et assez vite, je me rends compte que si tu veux aller au cinéma, il faut des thunes. Mais j'étais lycéen, hein, j'avais même pas de bourse et tout. C'était un peu. Et en fait, je découvre un squat où tu peux. Ce qui me paraît complètement normal aujourd'hui, mais à l'époque c'était assez fou. C'est-à-dire qu'on arrive le soir, tu vas voir, t'as toute une soirée avec 2-3 films. Tu sais, j'avais découvert La Jetée, d'autres films de Terry Gilliam et tout ça. Et t'es dans des canapes, tu donnes ce que t'as, et on te sert du thé et des gâteaux au chocolat. Et tout le monde est hyper cool. Tu sais, tout le monde a des looks un peu. Ah ouais, non, c'est pas mal la ville et tout, en fait.
Et c'était quel squat, ça ?
C'était le clan D. Ouais,
j'habitais à côté du clan
D. Ah ouais ?
Dans la rue. J'ai fait mes études à Toulouse, c'était la fin
de 2006, c'est ça, la fin, ouais. Même pas, peut-être fin. Enfin, je crois que c'était de fin 2006, la fin du clan D.
Marteau piqueur ?
Ouais, c'est des marteaux piqueurs. En haut d'un meuble, bien sûr. Je fais beaucoup d'enregistrements pour son concret, pour ma musique. Pour mes vinyles, en fait. Des vinyles, après ça, c'est la gravure unique. Et pareil, j'ai ce truc, j'apprends à moins enregistrer parce que pour le coup, je sélectionne, à beaucoup plus sélectionner. Parce que pour le coup, le son, en général, quand tu le veux, tu sais qu'il va être là, quoi. Enfin, c'est un truc, soit tu le mets en place ou tu arrives au bon moment, mais c'est vrai que c'est ouais, la pratique du, de l'enregistrement, il y a toujours ce moment, comme la photo, tu vois, il y a toujours. Tu vas jamais prendre le truc au moment où c'est, quoi. Et du coup, ouais, le dérochage. Je pense que la pratique du vinyle ou de la bande magnétique d'ailleurs, elle est forcément dans un truc de découpage, d'arrêt, stop. Enfin, c'est vraiment. Ouais, le truc défile et t'as. Ouais, c'est ça. Si tu veux intervenir, il faut l'arrêter ou le ralentir. Il y a forcément. T'en reviens forcément à un moment, t'en reviens aux mains, quoi. C'est comment Marc Lé, par exemple, il y a plein de gens qui ont fait ça aussi, peut-être même avant lui, mais il découpait du coup les flexi-disques ou même il découpait les disques. Là, cette pratique est, je trouve, intéressante. Je ne me suis jamais beaucoup attardé, mais du coup, tu as aussi moyen de faire comme pour un piano préparé, tu peux faire des disques préparés. Mais finalement, moi, ma façon de préparer les disques, c'est juste d'enregistrer des sons et les faire presser, quoi. Sont déjà bien préparés parce que je fais des plages d'une minute, j'essaie de pas mettre trop d'effets, mais des fois je vais enregistrer dans une pièce avec de l'écho, du coup ça va faire un effet. Des fois je mets juste un son sur des débuts ou des fins de set et je me dis pff, en fait ouais c'est bon, ça me suffit quoi.
Donc là, t'en as combien maintenant des vinyles que t'as pressé toi-même?
J'ai tout ça là. Ça, c'est tout ce que j'ai fait faire. Je sais pas, j'en ai. Ouais, une petite vingtaine quoi. Ceux-là, c'est des faces uniques. Du coup, c'est le même tarif de faire une face que deux faces. Enfin, c'est le même tarif de faire deux faces uniques, deux faces A que de faire une face AB quoi. Du coup, je me suis dit, ah ben, c'est encore plus simple. Alors voilà. Je vais juste tenter. Je vais sortir le charme. Ah, oh, mais j'avais tranquille. Qu'est-ce que je fais?
Là, c'est quoi que j'entends? C'est la mécanique que j'entends? Ou il y a déjà
un son? Là, il y a un son qui sort, mais on l'entend pas parce que il est amplifié. Attends, je réfléchis. Ah, évidemment. Déjà. Parce que j'ai tout branché un peu à l'arrache. Ok. Donc là. Ah, voilà, c'est ça. Il manque un jack. Visuellement. Pédale, celle-là j'ai juste enlevé le capot pour pouvoir avoir plus de, comment dire, de, pour pas avoir le son de la pédale, c'est qui fait clac. C'était venu parce que j'avais fait une bande son pour c'était un spectacle de danse un peu, enfin où il fallait quand même faire vraiment aucun son parasite. Et du coup j'ai eu cette idée de faire ça, puis parce que je travaille pas avec le pied sur la pédale, je travaille toujours au doigt. Et ça permet aussi de pouvoir appuyer hyper, changer hyper vite l'effet. Mais c'est juste des échos à l'eau, donc je les ai toujours allumés en fait. Là j'ai elles passent toutes par ce switch qui fait. C'est juste des interrupteurs. Donc là je peux éteindre, je mets sur off, donc là j'ai rien qui passe. Et après j'ai des. J'ai juste des boutons poussoir qui fait que je peux m'amuser à faire passer le son juste au moment où je veux, quoi. Juste, du coup, ça permet d'avoir de la dextérité, même faire de la rythmique comme ça avec les doigts. Alors je m'étais fabriqué ça très simplement avec juste des interrupteurs et de la soudure, et en fait ça faisait des gros claques partout parce qu'il n'y a rien qui est à la masse, tout ça. Et du coup j'ai un ami qui bidouille un peu l'électronique, qui fabrique des pédales, Côte du Drone il s'appelle, et un copain sur Brest, et il m'a fabriqué ce modèle qui s'est, enfin apparemment il n'y a pas d'électricité qui passe entre les trucs et ça permet de qu'il n'y ait pas de parasites, quoi, du coup. Je sais pas comment exactement il a fait. Je crois avec des cellules photosensibles.
T'as cherché vraiment à utiliser des platines, où tu dis c'est un peu un accident, t'avais une platine au début. Attends, est-ce que tu te considères un peu un héritier des tendances platinistes, du mouvement platiniste?
Complètement. Ouais. Enfin, complètement héritier dans la, dans le côté circulaire, dans le matériel utilisé. Moi, j'ai vu un concert de. C'était un duo, c'était Erika et Martin Tétro au Théâtre Garonne à Toulouse. Et
donc là, c'est pareil, c'était un peu au début, tu découvrais tous ces trucs-là.
Ouais. Je commençais à être un peu averti, et puis je savais. Je crois que c'était vraiment la première fois que je voyais Erika, en tout cas. Mais j'étais avec un pote, un ancien, François Bessac, un mec du coin vers Villefranche, qui lui, à l'époque, tournait avec Gong, tout ça. Donc, quand même. Qui écoutait beaucoup France Musique, enfin qui avait vraiment ce truc, vraiment un mec du coin de là-bas, hein, mais qui avait une grosse culture des musiques, enfin de Sun Ra, tout ça, et puis des petits trucs improvisés, et lui faisait ça. Et on traînait beaucoup avec lui, avec Igor, un copain de Villefranche aussi. Et un jour, on est allé voir tous les trois un concert, on est parti de Villefranche. Il me dit ouais, t'es trop, j'ai entendu parler, tout ça. Puis on savait que c'était, je sais plus qui organisait ça, peut-être le Pavé dans le Jazz. Non, je suis plus sûr. Freddy Morrison, ouais, pour une orgade là-bas. Ça n'a pas d'importance. Et en fait, ouais, ça a été la découverte. Je sais que tous les trois, avec ses deux amis, on était passionnés de vinyle, on aimait bien faire n'importe quoi avec tout. Et moi, ça a été un peu la claque parce que j'ai trouvé ça hyper beau, la gestuelle. La gestuelle de Eric M. Qui est très différente d'ailleurs de Martin Tétro. Mais j'ai bloqué sur. Parce qu'en fait, lui, d'ailleurs, il bosse pour la danse aussi, il fait pas mal d'art plastique. Donc il a vraiment un sens global de ce qu'est une performance live d'un concert. Et je trouvais que c'était super. Et du coup, je me suis dit, ça donne vraiment envie de bosser avec ce truc qu'il faut arrêter plutôt que de. Contrairement à par exemple, à la guitare où l'inertie, y a très peu d'inertie, c'est-à-dire qu'il faut toujours relancer. À part quand tu utilises un looper ou autre chose. Il faut toujours relancer là, la platine vinyle, il faut l'arrêter pour arriver à faire quelque chose, à la faire vivre. Donc j'aimais bien ce geste là de devoir presser, faire une pression sur le disque pour. Puis après tu peux le faire bouger dans tous les sens. Après, c'est des gens, eux ils utilisent des MK2, enfin ce genre de matériel, donc assez. Qui est un peu le top, la Rolls-Royce. Enfin, le super truc pour faire du mix vinyle comme dans la techno ou le hip-hop, pour faire du scratch ou mixer quoi. Et moi j'ai jamais réussi à me servir d'une MK2, on essaie de m'expliquer. J'ai pas vraiment fait de rencontre, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps après ça à trouver mon matériel, parce que je voulais pas avoir ce genre de matos qui paraissait trop onéreux d'ailleurs, trop fragile pour ce que j'avais envie de faire. Alors Martin Tétro, il avait défoncé la platine, il a fait n'importe quoi avec. J'étais ah ouais d'accord, c'est cool, mais moi j'ai pas les moyens de faire ça avec une MK2. Je vais m'en acheter une. Et
qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la MK2?
C'est vraiment les platines de DJ, c'est-à-dire que t'as le moteur, le diamant, c'est ça, la cellule, elle peut aller dans un sens, dans l'autre, ça va jamais rien abîmer, ça s'arrête et ça repart vraiment au quart de tour. C'est un entraînement direct. C'est vraiment des platines de DJ quoi. Donc c'est pour ça qu'elle est très utilisée. Il y a Gemini, il y a plein d'autres qui en ont fait des platines de DJ, mais bon, celle-là, là, vraiment, c'est vraiment la base. connaissais le platinisme de hip-hop ou de techno. J'avais déjà vu des gens faire de la techno avec avec ce même matériel. J'ai déjà vu des potes, enfin des gens faire du scratch. Mais je savais pas qu'on pouvait avoir cette pratique du vinyle vers un univers plus onirique et plus expérimental, on va dire. Alors lui, ouais, Kim, il utilisait un chaos patch, je crois. Il récupérait les sons, il les faisait. Bon, il l'utilisait à sa manière, quoi. Et moi, c'est un jour, j'ai trouvé le modèle que j'utilise depuis, qui est le Philips 5120, qui est un modèle entraînement direct aussi, mais qui est une platine qui a été faite dans les années 70 pour les enfants. C'était un peu mon premier tourne-disque. Enfin, quand t'étais un gamin, quand on t'offrait ça. Et en fait, c'est hyper solide. Ça s'arrête jamais. Enfin, hyper solide, ouais, c'est quand même du plastique. Il a tendance un peu à se... Ça peut quand même casser, mais bref, ça ne s'arrête jamais, quoi. Pour l'avantage de ces platines, c'est que le moteur, tu peux les faire tourner pendant des heures. Et je me suis dit que c'était assez pratique pour aller dans tous les sens, et j'avais pas peur de l'abîmer, parce qu'à l'époque, tu trouvais ça en vide-grenier à 5 euros. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit « Ah, j'ai la même, vas-y, je te l'offre. » Du coup, j'en ai eu deux, puis on m'a fait ça plusieurs fois. Puis j'ai monté un set à force, je me suis dit « C'est pas possible, là, j'ai trois fois le même modèle, je suis obligé de faire quelque chose avec. » Et je m'étais inspiré pour ça de DJ Urine, qui est un gars qui tournait un peu à Toulouse en début 2010, quoi, enfin dans ces années-là. Il tournait pas mal et lui il avait trois Fisher Price. Et c'était trois fois le même tourne-disque pour enfants. Et je pense que ça, j'ai fait cette rencontre, j'avais déjà commencé un peu à bosser avec ces modèles-là. Je m'étais dit, ouais, mais en fait, il faut assumer, il y a vraiment un truc, c'est super, t'as trois fois le même objet. Et François Bessac, donc le copain avec qui on est allé voir ce concert, Eric M. était trop. Il avait aussi il collectionnait un peu ce genre de matériel et je sais qu'il avait trois platines orange aussi, je sais plus quel modèle. Et j'étais là, ouais, mais ça jette en fait d'avoir une série comme ça. C'est presque une présentation, presque dans un magasin en train de présenter le nouveau modèle. Et le problème, c'est qu'elle est devenue vintage, comme toutes les choses qui ont plus de 20 ans, tous les objets. Donc maintenant, pour en trouver. En bon état, sur le bon coin. Alors t'en trouves encore, mais c'est autour de 25-30 euros. Et souvent elles arrivent en mauvais état, du coup je suis souvent dégoûté. Et sinon ça va, t'en trouves à 300 euros. C'est un modèle, voilà. Il y a 15 ans tu le trouvais, on te le donnait. Bon, on m'en a donné plein. C'est pas mal de gens qui avaient ça dans le...
Donc ça se casse quand même, t'es obligé de les remplacer.
Ouais. Ouais. Il y a un axe assez fragile, l'axe autour duquel tourne le plateau. Tout le reste est hyper solide. L'électronique, j'ai rarement eu, à part quand j'ai fait des mauvais contacts en bidouillant, mais tout est hyper solide, facile à bidouiller. Tu peux mettre une sortie, tu peux arrêter le moteur, j'ai plein de petits boutons comme ça qui me servent à couper des choses. Dans le milieu de la musique improvisée, il disait dispositif électroacoustique. Dès qu'il y avait un truc à l'horizontale qui était posé, du matériel posé sur une table avec quelqu'un qui bidouille, ben, ça s'appelait dispositif électroacoustique. Maintenant, par anglais, on dit un setup. Parce que ça s'est vachement détendu, je trouve. Ce truc-là, et on est encore un peu dans des messes avec vachement de respect, de l'écoute, ça. Enfin, pas toujours, mais. Mais je trouve que c'est... Les gens sont un peu plus détendus qu'avant face à ces musiques-là. Et j'avoue que, bon, on aime bien être écouté, mais des fois, les silences religieux, s'ils sont imposés, parce que des fois, ils sont imposés par le cadre. Et je trouve que souvent, c'est foireux quand le silence est imposé par le cadre. Par contre, si c'est toi qui imposes le silence dans un endroit un peu festif, tu
peux l'imposer par la puissance et sonore, mais aussi par de l'aura, un truc. Et là, en général, c'est beau. Là-dessus, j'ai un moment une boucle parce que le disque est rayé et j'avais utilisé ça. Ouais. Je sais pas si je le retrouve. En fait, tout le début du morceau, c'est cette boucle que je fais évoluer. Après, je l'ai un peu refiltré sur le logiciel, mais du coup, ça fait comme un... Thank you. Varèse, c'est bon dans la, c'est un peu le pied dans la musique contemporaine, quoi. Quand t'as, en fait, c'est bah, ouais, je suis arrivé, j'ai écouté des disques de rock parce que mes parents avaient des vinyles de rock. Et ils avaient des Zappa. Du coup, j'ai commencé à écouter Zappa. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je sais qu'il parlait beaucoup. Mais quand t'es adolescent, en plus, tu peux facilement bloquer sur un artiste et commencer à lire toute sa biographie, tout ça. Du coup, j'étais un peu parti comme ça, dans un délire, écouter beaucoup de ses disques. Et il parlait régulièrement de son influence de Varèse. Ouais, ouais, il était très influencé par Edgar Varèse. Il a collaboré avec Boulez. C'est encore autre chose, mais... C'est vrai que cet album qu'il a fait avec Boulez, ça a été un peu pour moi l'introduction, une sorte de vulgarisation de la musique contemporaine, et ça a été un peu mon entrée, quoi, dans la matière. C'est là que j'ai commencé à aller au rayon, dans le rayon musique, enfin dans le rayon à la médiathèque de Toulouse, j'ai commencé à aller m'intéresser au rayon musique contemporaine. Du coup, je trouve qu'il a... Bon, on dira ce qu'on voudra, hein, parce qu'il y a des... Il y a des trucs bien, des trucs moins bien, donc il y en a qui détestent. Un qui adore, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est ça. Comment il a amené... comment il a pu, moi, m'amener, en tout cas, à écouter de la musique contemporaine, alors que je pense que j'ai rien mis prémédité. J'y serais peut-être arrivé par la suite. Mais bon, j'ai pas non plus une culture de dingue en musique contemporaine, mais c'est comme ça que j'ai commencé à écouter des trucs... et après apprécier des trucs plus bruitistes.
Donc ça, c'est quoi?
C'est Ikuemori. Ikuemori. Ikuemori, elle... c'est un peu la...
C'est un peu une artiste, c'est l'artiste japonaise qui est à la base. C'est la, elle était batteuse de DNA, groupe new-yorkais. Et elle a une, cette pratique de la musique électronique. Alors sur cet album, ça, c'est pas l'album sur lequel ça se ressent le plus, mais elle a, elle a un album qui s'appelle The Pit. Enfin, c'est repris d'une, d'une histoire très ancienne. Je le retrouverai tout à l'heure. Mais elle a fait un album qui est très musique électronique, mais avec des boucles répétitives comme ça, qui évoluent. Alors, je ne sais pas avec quelle sampleur, elle, enfin, quel matériel elle travaille. Mais elle a fait un album où, du coup, moi j'ai découvert ça à l'époque où on écoutait tous les labels Warp, enfin tous les trucs d'électronique un peu qui faisaient pas mal de cuts. Enfin, les Aphex Twin, les Otech et compagnie.
Les Glitch.
Les, ouais, c'est ça, toute cette, tout cette scène-là, anglaise, plus ou moins, qui faisait ça, cette. Cette musique, et puis j'ai découvert Ikue Mori, qui elle vraiment, vraiment une espèce de ligne direct, d'axe directeur comme ça, où elle, sur un album elle va partir sur le même truc. Et... Donc voilà, elle m'a pas mal influencé, on va dire. Je crois qu'à un moment j'aurais voulu faire un peu imiter, mais c'est impossible, enfin, ça n'a jamais marché bien sûr, heureusement. Mais voilà, j'ai... elle a fait, elle a bossé d'ailleurs, elle a été embauchée à un moment dans un des projets de John Zorn. Electric Masada, je l'avais vu comme ça en live, donc plus récemment dans les années 2000 quoi. Sinon un disque que j'écoute beaucoup en ce moment qui fait du bien, je dois l'avoir là parce que je l'ai écouté il n'y a pas longtemps, un peu un disque d'insomnie comme ça. Celui-là. Case Whitman, Case Fullerton, Whitman. Et pareil, c'est quand même un artiste, je pense, un artiste un peu majeur dans cette scène. Mais je connais peut-être 3-4 albums, mais surtout celui-là que j'écoute beaucoup. Et je l'aime beaucoup, mais en fait, il faudrait l'écouter en entier pour vraiment se rendre compte. Mais il passe de. Il a beaucoup de porosité dans sa technique, dans son choix d'instrument. C'est-à-dire qu'il va passer de son très électronique. Tu peux mettre le début. Alors, on n'est pas du tout sur un truc électronique. Je vais mettre la face B. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, cet album, il est particulier parce qu'il a mis 10 ans à le faire. Plusieurs... 10 ans de... Donc, il utilise des cloches, un orgue Montampi, des cymbales, une clarinette, une guitare classique, un ordinateur, des field recording, un multivox, des samples, des effets. Des... En fait, c'est ça. Ben, c'est hyper intéressant parce qu'on a tout écrit là.
Et c'est Chicago. C'est écrit Chicago.
Ouais. En tout cas, le label est Chicago. Ouais. Ouais, Peter, layout by Peter Christophe. Feel free to contact Case Fullerton Whitman via the email. C'est cool, enfin c'est quand même. Tu vois, moi j'ai l'impression que c'est une pointure inaccessible en fait. Il met quand même son mail sur son disque. Mais c'est quand même c'est quand même un public assez confidentiel, on va dire. Ce qui est cool, c'est qu'il a ce truc où il n'hésitera pas à passer d'un coup, mettre de la guitare classique. Comme tu passes d'un truc très électronica à. T'as l'impression d'être au coin du feu, dans la forêt, quoi. Mm.
Écouter comme ça dans un moment où, c'est turbulent dans sa tête.
T'as pas forcément besoin de garde. Quoi, je sais pas. Je
sais plus, un par platine serait bien.
Tu sais plus.
Ça veut dire quoi, j'ai besoin de garde?
Bah, enfin, si je te mets fort ou pas.
Ben, je pense qu'il vaut mieux que tu mettes sur les XLR, si c'est un peu fort, là-bas, que je me mette pas trop fort. Okay. Mais on va savoir, on va se
bien. Ah ben non, on a tout déchargé vite.
J'en ai dans au moins un.
Bon. Ça marche aussi, hein.
Ouais, je pense que là-dedans, il y a... que j'ai tout là-dedans. Je dois avoir un XLR et un XLR jack.
J'ai l'impression d'être en train de rêver.
C'est comme si je faisais un rêve que quand on faisait des concerts. J'ai pas fait ça depuis hyper longtemps. Le dernier, c'était dans un chais. C'était chez... c'était dans... Là où ils font... Non. Là où ils font leur vin, bah les... La bande à... Et je me rappelle, à ce moment, on avait joué dans une petite salle, des fêtes de chez un particulier, et en plein dans ces gars-là, enfin dans une espèce de centre Aveyron comme ça. Et ouais, on avait joué devant des gens qui sortaient voir le spectacle, mais ils s'attendaient pas du tout à voir ça. Mais du coup, il y avait quand même ce truc. Personne n'avait vraiment les codes, mais il y avait quand même ce truc du matériel, du vinyle et tout ça. Qui ça rebondissait quand même. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ouais, de parler de la matière, enfin de plus des objets. Puis après les gens discrètement, après ils passent quand même aux émotions, quoi. Mais ça, à un moment, ça me manquait de plus jouer devant les non-initiés, quoi. Ouais, je me rappelle un gars une fois qui était venu me voir en plein concert. Bah ouais, tu vends pas des disques? Et je dis bah si, c'est 10 euros, tu vois, que j'ai fait la transaction entre deux passages. S'intéresse à ce que tu fais, mais s'intéresse surtout au fait de pouvoir acheter un truc, parce que des gens étaient là pour acheter des trucs, un marché, quoi.
vachement aimé le moment où tu as cherché le disque. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu prends n'importe quel disque et à un moment, tu t'es retourné et tu as cherché un disque. Et t'as mis ce disque et j'ai dit à Sophie, elle a dit c'est la techno, il a mis la techno.
Ah ouais.
Et oui, c'était celui-là, en fait t'as cherché la techno. Et le reste tu cherchais pas.
Ouais, c'était bien vu.
Ouais, c'était bien vu.
On commence bien, c'est-à-dire.
Oui, voilà.
Je pense que tu l'as bien mis dans le bain. Les autres ils vont prendre cher. Les autres ils vont en bouffer.
Ouais,
putain,
on a
j'avais envie de saboter le truc, mais de finir tout doucement parce que j'avais peur de... Ouais, je sais pas, retour.
Attends. Oui, d'accord, je vois ce que tu dis.
C'est pour des gens.
Ouais, t'étais parti, quoi.
Ouais.
C'était Collagène, avec le platiniste Guillaume Holl.